Si ça vous intéresse, je peux vous donner le contrat de mariage pour vous montrer que l'un et l'autre avaient gagné pas mal d'argent. Le contrat de mariage mentionnait comme bien des époux cet immeuble, la rue du Pont-Neuf, un petit pavillon qui existe toujours, un petit pavillon octogonal qui était une espèce de toute petite résidence secondaire où il aimait se retirer et remiser son attirail de pêcheur. 11 000 francs or, de fonds et d'outillage d'horlogerie, 11 000 francs d'économie de Louis, 11 000 francs d'économie de Zélie, plus 5 000 francs pour la dot de Zélie Guérin. Et donc, on peut dire qu'il n'était pas désargenté. Et ça, c'était simplement le début du mariage. Ils vont gagner beaucoup d'argent par la suite. Alors, c'est vrai que vous pouvez être énervé par ses parents qui, manifestement, ont fait partie de la bourgeoisie enrichie par le travail à la fin du XIXe siècle. Tout le contraire de la petite Bernadette de Lourdes. Mais je pense que le Seigneur peut susciter des desseins dans tous les milieux. Alors maintenant, accrochez bien vos ceintures, s'il vous plaît, parce que vous allez entendre des choses un peu bizarres. Mais les plus anciens et les plus anciennes d'entre vous ne seront pas étonnés par ce que je vais dire. Zélie Guérin s'est mariée avec l'idée d'avoir beaucoup d'enfants. Seulement, elle ignorait tout de la façon dont les enfants étaient conçus. Et encore, ces jours-ci, en faisant une conférence sur le même sujet, une personne m'a dit, j'ai connu une personne qui, tout en travaillant dans une ferme et en voyant très bien les rapports entre les taureaux et les vaches, eh bien, s'imaginait qu'on obtenait des enfants en les demandant au bon Dieu, par une simple prière. Parce qu'elle avait été très frappée d'entendre au cours d'une cérémonie de mariage, le prêtre dire « Si le bon Dieu vous exauce et vous donne des enfants, donc c'est à la suite d'une prière qu'on a des enfants. » Quand le soir de ses noces, Zélie Guérin découvre que pour avoir des enfants, il faut s'unir aussi intimement à son mari, elle est effrayée. Alors ne dites pas que c'est une éducation janséniste, les parents étaient tous sauf jansénistes, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'était l'ignorance assez courante à l'époque, chez des gens qui avaient quand même une certaine culture et qui étaient très forts en dentelle d'Alençon. Alors Louis, qui désirait lui aussi avoir des enfants, accepte les réticences de son épouse et voilà que pendant quelques mois, ils vont vivre, comme on dit, comme frères et sœurs. Ce qui a peut-être aidé Louis à accepter les réticences, je ne dis pas la pudibonderie, c'était pas une question de pudibonderie, c'est bon, il fallait le temps qu'elle se fasse à l'idée que c'était comme ça qu'on avait des enfants. Bon. Ce qui a sans doute aidé Louis à accepter les réticences de son épouse, c'est un texte qu'il a recopié dans sa jeunesse, on l'a retrouvé dans ces fameux cahiers dont je parlais tout à l'heure, et qui disait ceci, de la doctrine de l'Église sur le sacrement de mariage. Le lien qui constitue ce sacrement est indépendant de sa consommation. Vous savez combien l'Église insiste sur l'importance de la consommation, puisque on peut facilement déclarer nul un mariage qui a été, comme on dit, ratifié, sed non consummatum, mais non consommé. Nous voyons une preuve éclatante de cette vérité dans la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui, bien que véritablement mariés, ont gardé une continence perpétuelle. Ces illustres époux ont eu depuis, pour imitateurs, plusieurs saints, qui, vivant dans le mariage comme des vierges, se sont bornés à l'union toute pure du cœur, renonçant d'un commun consentement au commerce charnel qui leur était permis. Pensez à Jacques Maritain, ce grand philosophe du siècle dernier, converti du judaïsme, qui après avoir épousé Raïssa Maritain, également converti du judaïsme, et avoir vécu des relations sexuelles normales avec elle pendant 7 ans, a décidé d'un commun accord avec elle, et après réflexion, à ne plus avoir du tout de relations sexuelles avec elle. Je pense à un foyer qui vit aujourd'hui quelque part en France, qui ont plusieurs enfants, qui sont très bien équilibrés psychologiquement et qui m'ont confié, il y a quelque temps, qu'ils avaient fait eux aussi ce vœu de continence perpétuelle. Bon. Cela arrive encore à notre époque. Bon. C'est-à-dire que ils sont très sensibles à ce que dit saint Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 7, l'homme ne doit pas se refuser à sa femme ni la femme à son mari, mais parfois, pour un temps, pour vaquer à la prière, et en plein accord l'un avec l'autre, ils peuvent s'abstenir de ces relations. Eh bien, il y en a qui estiment que pour mieux vaquer à la prière, ce n'est pas seulement pour un temps qu'ils doivent le faire, mais tout le temps. Ce n'est pas du tout une dévaluation du mariage et de la chasteté conjugale, mais c'est comme cela, il y en a à qui cela est demandé par le Seigneur. Bon. Ces mariages avaient toujours ce qui était essentiel à leur validité. Ils avaient même cet avantage sur les autres de représenter d'une manière plus parfaite l'union chaste et toute spirituelle de Jésus-Christ avec son Église. De toute façon, il n'y avait nul égoïsme dans cette décision, puisque les deux époux ont pris dans leur foyer pour plusieurs années un petit garçon de 5 ans dont le père, devenu veuf, avait 11 enfants à élever. Donc, ils n'ont pas adopté cet enfant, mais ils se sont dit, on va aider ce papa surchargé de besogne à élever l'un de ses enfants. Mais bientôt, sur le conseil d'un prêtre, le couple décide de mener une vie conjugale normale dans l'espoir d'avoir beaucoup d'enfants. Mais ils en auront 9. Ils se sont bien rattrapés par la suite. Thérèse, la petite dernière, connaîtra plus tard le projet initial de ses parents. Elle bénira Dieu de la faire naître en une terre sainte et comme tout imprégnée d'un parfum virginal. Mais encore une fois, surtout, j'y pense, j'allais oublier de le dire, c'est tellement évident, c'est pas pour ça qu'ils vont être béatifiés, vous voyez. Ça serait complètement idiot. Bon, c'est évident, mais ça va peut-être mieux en le disant. Les naissances se succèdent alors rapidement. En 3 ans et demi, ils vont avoir 3 enfants. Marie qui va vivre jusqu'à 80 ans. Pauline qui va vivre jusqu'à 90 ans. Léonie la troisième qui va vivre jusqu'à 78 ans. Et puis les deux dernières, Céline qui vivra jusqu'à 90 ans, qui est morte en 1959. Et Thérèse qui est morte à 24 ans. Hélas, la maman ne peut plus nourrir la quatrième, Hélène, née le 13 octobre 1864. Elle souffre d'une glande au sein qui lui cause de l'inquiétude et qui se développera dans un cancer dont elle mourra 13 ans plus tard. La maman ne peut pas nourrir davantage les deux petits Joseph, qui naissent en 1866 et 1867, malgré leur placement en nourrice chez Rosalie Taillé, à Semalé, pas loin d'Alençon, ils meurent l'un et l'autre. Hein? Les parents auraient tellement voulu avoir 2 enfants missionnaires, ils ne l'auront pas, mais ils donneront naissance à Thérèse, qui deviendra patronne de toutes les missions. 9 jours après le décès du second Joseph, c'est le père de Zélie qui meurt. Si j'avais le temps, je vous montrerai la cascade de décès qui se sont abattus sur cette famille, à une époque où la médecine n'avait pas fait les progrès d'aujourd'hui. Quand les enfants naissent au foyer, Louis continue son travail d'horloger. Mais à partir de 1863, il assume la direction commerciale de l'entreprise de sa femme qu'il s'est mise à son compte. Comme il aime beaucoup voyager, il a fait des kilomètres de pèlerinage, Louis Martin. Il est très heureux de prendre le train pour aller placer les belles dentelles de son épouse à Paris, à Lyon, à Bordeaux, dans les grands magasins. Il se fait l'attaché commercial de sa femme tout en restant maître de son horlogerie.